Troisième temps de notre semaine consacrée au bac d'histoire dans la série Bac 2016, mention France Culture qui permet de réviser le bac d'histoire avec nous, la philosophie avec les chemins de la connaissance, la littérature avec la compagnie des auteurs ou encore les sciences avec les émissions de 16h chaque jour sur France Culture. Après avoir abordé le chapitre « Gouverner la France » depuis 1946 lundi, puis nous être approchés du thème difficile qui était celui de médias et opinion publique, hier et avant-demain de nous intéresser aux relations de la Chine et du monde, nous allons ce matin nous arrêter sur le programme des bacs pro, les États-Unis et le monde, d'ailleurs un chapitre qui est également traité par les autres sections. Chaque jour, je vous le rappelle, une même règle, un documentaire de 20 minutes qui a été préparé par Victor Massé de l'Épinay de la Fabrique de l'Histoire et réalisé par Séverine Cassard, comme une sorte d'encadré sur un événement marquant le chapitre du jour. Et puis ensuite un corrigé par un ou plusieurs professeurs et même aujourd'hui un exposé d'élèves en bac pro sur le même thème. Le thème d'aujourd'hui, eh bien, ce sont les États-Unis et le monde et nous aurons avec nous Éliane Leport et Sylvie Gentot qui sont toutes les deux professeurs au lycée Gaston Bachelard dans le 13e arrondissement et leurs élèves, mais auparavant le plan Marshall avec Pierre Mélandry, professeur d'histoire de relations internationales sur les États-Unis et le monde.
Je m'appelle Monsieur Jack Jackson à New York. M'entendez-vous?
Oui, je vous entends très bien.
Bonjour Monsieur Jackson.
Bonjour.
Je suis heureux de vous présenter Monsieur Raymond Aron qui est à côté de moi et Monsieur Jean Guinbert.
Bonjour Jackson, comment allez-vous?
Bonjour mon vieux Guinbert, comment ça va?
Ah, vous me donnez la nostalgie des belles années mon cher.
Oui, les belles années et les bons vieux jours.
Vous vous souvenez quand vous êtes arrivé?
Oui.
Mais pourquoi vous n'êtes pas revenu?
Ah ben malheureusement, vous savez, il n'y a pas tellement de dollars ici non plus.
Oh là là, vous trouverez bien quelques dollars puisque vous voulez nous en envoyer, venez avec eux.
Messieurs, ces congratulations étant terminées, puis-je vous rappeler que vous êtes ici pour discuter du plan Marshall?
Pierre Mélandry, nous aussi nous allons parler du plan Marshall, ce grand plan d'aide financière mis en place par les États-Unis pour aider à la reconstruction de l'Europe. Pour parler de ce plan Marshall, il semble important de commencer par dresser un peu le panorama de l'Europe à la fin de la guerre et aussi des États-Unis. Quelles sont les positions économiques et politiques de ces deux pôles?
Vous avez d'un côté une Europe qui a quand même été dévastée par la guerre. On a une URSS qui est un des grands vainqueurs de la guerre, mais qui elle aussi a souffert énormément de cette dernière, avec peut-être quelque chose comme 24 millions de morts. Et en face, vous avez la seule grande puissance qui sortent plus fortes du conflit qu'elle n'y est entrée, à savoir les États-Unis. Et alors vous avez en 45 évidemment une Amérique qui domine le monde comme elle ne l'a plus jamais fait depuis, même au moment où on pourra à juste titre, dans la deuxième moitié des années 90, la qualifier d'hyperpuissante. Elle dispose des 2/3 des réserves d'or mondiales, de 3/4 des capitaux investis dans le monde, de la moitié de la capacité manufacturière, de la moitié des capacités de transport, elle dispose de l'arme atomique et elle dispose du contrôle assez large, et c'est un élément qu'il ne faut jamais perdre de vue quand on parle de la puissance américaine à l'époque du moins, et c'est un petit peu revenu d'ailleurs aujourd'hui, du marché du pétrole. Et donc c'est cette Amérique qui dicte plus ou moins à la fin du conflit, en tirant les leçons de l'échec que Wilson avait enregistré, l'ordre mondial qui doit lui succéder.
I'm Chiquita Banana with a message great.
Moi, Chiquita Banana, j'ai un message pour aider à sauver ces millions d'enfants de la famine. Il y a quelque chose à faire, manger davantage de légumes frais et de fruits aussi. Envoyons-leur du blé et des conserves. C'est la seule façon de lutter contre la famine. Légumes et fruits frais sont les armes de ce combat. Alors, tendons la main à toutes les nations.
Vous savez, il n'est jamais facile d'obtenir d'une représentation nationale qui est responsable devant ses mandants, c'est-à-dire les électeurs, des fonds pour l'étranger. Et il faut dire ce qui est, ça a été une période tout à fait exceptionnelle. Les Américains ont donné dans ces années entre 8 et 10% de budget pour l'aide Marshall, représenté environ 2 à 3% du PIB. N'oubliez pas que Averell Harriman, un grand diplomate américain, avait remarqué que au lendemain de la guerre, les Américains ne songeaient qu'à une chose, c'était aller au cinéma et boire du Coca-Cola. Et en novembre 1946, l'élection amène une majorité républicaine dans les deux chambres du Congrès qui a manifestement été élue pour plutôt tailler à la hache dans les dépenses des États-Unis à l'étranger. Alors, comment se fait-il que tout ça va être subitement bouleversé? Eh bien, parce que la donne change totalement. Elle change lorsque les Anglais font savoir aux Américains qu'ils ne seront plus en mesure d'assumer leur tutelle traditionnelle dans deux pays, la Grèce et la Turquie. Ce qui permet à l'exécutif américain de convaincre un Congrès qu'il faut absolument que les États-Unis bougent. Ça a été difficile d'ailleurs. Lorsqu'on a expliqué le problème était la reconstruction économique de l'Europe, les sénateurs et les représentants se sont demandé si on voulait leur faire tirer les marrons du feu pour l'Angleterre. Mais lorsque Dean Acheson, qui était alors sous-secrétaire d'État, a expliqué que si la Grèce et la Turquie tombaient, de là le communisme s'étendrait vers le Proche-Orient, de là au Moyen-Orient, mais surtout en Afrique du Nord et de là, potentiellement en France et en Italie, alors là, les sénateurs américains, en particulier le sénateur Vandenberg, qui présidait la commission des affaires étrangères, a compris. Mais a-t-il ajouté au président, je soutiendrai votre projet, mais vous devrez fiche une frousse de tous les diables au pays. Parce qu'il faudra lui expliquer pourquoi on va faire un peu le contraire de ce pourquoi on a été élu, pourquoi on va consacrer de l'argent à la politique étrangère. Et de ce point de vue, c'est un premier très grand tournant. L'Amérique, désormais, va devenir une sorte de nouvelle Rome. Elle est en train d'assumer pleinement ses responsabilités géostratégiques et diplomatique qu'elle avait cherché à diluer un peu dans le Conseil de sécurité et l'ONU au sortir du conflit.
George Marshall, discours à l'université de Harvard, le 5 juin 1947. Aside from the demoralizing effect on the world at large, en dehors des effets démoralisants sur le monde en général et des risques de troubles résultant du désespoir des peuples en cause, les conséquences sur l'économie américaine sont claires pour tous. Il est logique que les États-Unis fassent tout ce qui sera en leur pouvoir pour contribuer au retour de conditions économiques normalement saines dans le monde, sans lesquelles il ne peut y avoir de stabilité politique ni de paix assurée.
Première idée du plan Marshall essentiel, un plan global, c'est-à-dire plus de piecemeal approach, pour parler en anglais, plus d'approche pays par pays, une approche globale européenne. Et puis, il y avait la deuxième idée que ça devait lever le verrou à la reconstruction de l'Allemagne, sans laquelle on ne voyait pas comment reconstruire l'Europe.
Notre politique n'est dirigée ni contre un pays, ni contre une doctrine, mais contre la faim, la pauvreté, le désespoir et le chaos. Son objectif devrait être de remettre l'économie mondiale en état de fonctionner et d'ainsi permettre l'émergence de conditions politiques et sociales dans lesquelles des institutions libres puissent exister. Tout gouvernement qui consent à nous aider dans la tâche de renaissance trouvera, j'en suis sûr, une coopération complète de la part du gouvernement américain. Tout gouvernement qui manœuvre pour arrêter la renaissance d'autres pays ne peut attendre d'aide de notre part.
Les Américains, quand ils ont conçu le plan, étaient très embarrassés. Ils savaient que les Européens ne voulaient pas de coupure de l'Europe et qu'ils voulaient donc qu'on continue le dialogue avec l'URSS. Que ce serait une erreur politique grave d'exclure a priori l'URSS. De notre côté, ils savaient très bien qu'une participation de l'URSS serait pour eux une catastrophe. D'abord parce que ça représenterait infiniment plus d'argent à trouver au regard de l'ampleur du pays, mais aussi parce qu'au fond, l'argument subliminal derrière toute l'affaire était qu'il fallait endiguer l'URSS. Alors comment expliquer au Congrès, d'un côté, qu'il fallait endiguer l'URSS et que de l'autre, il fallait l'aider? Alors, on s'en est tiré en mettant à l'exécution du plan et à la participation au plan des conditions dont on pensait bien que Moscou ne serait pas à même de les accepter. Et on sait que lorsque le plan Marshall a été annoncé, Les Français et les Anglais ont invité à Paris, d'ailleurs, les Soviétiques à réfléchir avec eux à la réponse qu'il faudrait apporter au projet américain.
Aujourd'hui, à Paris, au château de la Muette, nouveau siège de l'Organisation européenne de coopération économique, a été signé l'accord de paiement et de compensation inter-européen, tandis que le premier programme annuel pour le relèvement de l'Europe était remis à M. Avril Harriman, ambassadeur du plan Marshall en Europe, par M. Paul-Henri Spaak, président du Conseil de l'organisation. Ce plan, qui a été approuvé au cours d'une réunion des ministres représentant les pays membres de l'organisation, sera présenté par M. Harriman à M. Paul Hoffman, administrateur du plan Marshall, pour être soumis à l'approbation de l'ECA à Washington. Comme l'ont souligné les orateurs qui ont pris la parole cet après-midi, ce plan annuel ne se borne pas à montrer les intentions de l'Europe quant à l'emploi de l'aide fournie par les États-Unis, il expose les efforts que les pays participants vont faire afin que l'Europe s'aide elle-même. En effet, l'accord de paiement et de compensation signé cet après-midi par les ministres des Affaires étrangères ou leurs représentants consacre le système mis au point par l'Organisation européenne de coopération économique. Ce système consiste à autoriser les pays bénéficiaires de l'aide américaine à ouvrir des crédits à leurs principaux débiteurs européens qui autrement ne pourraient pas acheter chez eux les produits dont ils ont besoin. C'est exactement ce qu'on appelle un droit de tirage qui, en fin de compte, revient à faire don d'un certain montant de devises à un autre pays pour qu'il puisse acheter les marchandises nécessaires.
Staline n'a pas pu concevoir l'idée qu'un pays capitaliste en aide d'autres s'il n'avait pas des desseins sombres et ténébreux dans la tête. Et on sait que les Soviétiques, après avoir négocié un certain temps, ont décidé de rejeter le plan et peu à peu ont contraint leur satellites qui, eux, ne demandaient sans doute qu'à bénéficier de cette manne qui subitement se profilait, de se désister. Et on s'aperçoit que ça a profondément aidé le vote des crédits du plan Marshall. Parce que ce qui s'est produit à ce moment-là, c'est qu'il y a eu le coup de Prague. Et cela a évidemment énormément aidé à la conversion des sénateurs et des représentants. Le 3 avril 1948, le président Truman a pu signer ce qui s'appelait désormais l'European Recovery Program.
Allô Paris, ici Rouen. Le port du Havre voyait arriver aujourd'hui le 600e bateau traversant l'Atlantique pour nous apporter la cargaison de denrées alimentaires et de machines indispensables à notre reconstruction.
L'Oregon est un navire de la compagnie générale transatlantique qui déplace environ 17 000 tonnes.
Vous pouvez m'en donner le détail ?
Du lard en assez grande quantité, 2 000 tonnes, des fers, de la machinerie, de la farine, 150 tonnes de farine.
Vous m'avez parlé de machinerie, quelle sorte de machinerie ? À destination des usines françaises, mais quelle
machinerie ? À destination des usines, des centrales électriques que nous sommes en train de reconstruire, centrale de Gennevilliers, centrale d'Arnes.
Ce n'est pas le premier voyage, commandant, que vous faites au titre de l'aide intérimaire.
Non, ce n'est pas le premier voyage. Il y a 2 ans que je fais le voyage entre Le Havre et New York. Et chaque fois, nous revenons avec à peu près le plein chargement, soit en cubage, soit en poids.
Et toujours à peu près le même chargement, c'est-à-dire moitié matière alimentaire, moitié produits industriels.
Les premiers voyages avaient beaucoup plus de matière alimentaire, mais maintenant, nous avons à peu près moitié-moitié.
Bon, espérons que ça continuera comme cela pendant longtemps, non ?
Je le souhaite et je le crois. Je suis à peu près persuadé que ça va continuer.
Pierre Mélandry, cette aide du plan Marshall, c'est une aide qui n'est pas une aide en espèces, c'est d'abord une aide en nature. On reçoit des marchandises américaines.
Oui, bien sûr, parce qu'au fond, le problème, c'est que l'Europe n'avait plus de devises fortes, c'est-à-dire de dollars, pour acheter des biens américains. Alors, la solution est la suivante. Les pays européens déposent devant l'Economic Cooperation Administration une liste d'achats de ceux qu'ils jugent utiles et nécessaires pour la reconstruction et leur survie. Ensuite, l'ICA, l'Economic Cooperation Administration, donne ou non son accord. Supposons qu'elle le donne, les produits arrivent. Que se passe-t-il à ce moment ? À ce moment, les gens qui vont recevoir les produits paient en devise locale auprès de l'agence nationale de l'ICA dans leur propre pays les sommes correspondant au montant des biens reçus.
Donc les Français payent en francs ce qu'ils reçoivent des États-Unis.
Et ensuite, le gouvernement français va demander le déblocage de ces fonds qu'on appelle des fonds de contre-valeur pour tel ou tel projet et il revient à l'agence américaine de l'ICA locale de décider si oui ou non cet argent sera débloqué pour ses projets. Et ça a permis en particulier à la France de financer une bonne partie, je ne veux pas me tromper, je crois que c'est de l'ordre de 50% du plan de modernisation qui avait été imaginé par Jean Monnet et le commissariat au plan.
C'est-à-dire que tout l'argent qu'on utilise pour payer ces marchandises américaines est rendu au pays par les États-Unis qui doivent le réinvestir dans des projets que les États-Unis ont validés.
Exactement. Là, ils se réservent encore une fois de plus le contrôle, mais l'argent est quand même souvent utilement employé.
Au nom du gouvernement français, M. Coty, ministre de la Reconstruction, remercie d'abord le gouvernement des États-Unis de l'appui apporté. Après avoir dressé un bilan impressionnant de ce qu'était l'aide américaine depuis la libération, le ministre de la Reconstruction termine son allocution par ces mots.
Toutes ces marchandises que nous avons aperçues ou dont je viens de parler, on ne le sait pas assez, on ne le répète pas suffisamment. Toutes ces marchandises ne nous ont pas été cédées, elles nous ont été données. Et si j'ose employer cette superfétation qui ne sera pas superflue, elles nous ont été données gratuitement.
S'agit-il de dons, s'agit-il de prêts? Je crois que les Américains se rappellent qu'au fond, il est souvent un petit peu dangereux de prêter quand on sait qu'on a guère de chances d'être remboursé. On perd sur les deux tableaux, on laisse les emprunteurs amers de se voir reprocher de ne pas rembourser et on ne voit pas un sou pour autant. Je crois que le vrai intérêt du plan Marshall a été la façon dont les Américains ont voulu et ont réussi à être les conseilleurs parce qu'ils étaient les payeurs, c'est-à-dire le nombre de conditions qu'ils ont mis à l'octroi de leur aide. Alors, ces contraintes imaginées par les Américains ont pris plusieurs formes. La première étant évidemment le fait que le Congrès a décidé de voter les crédits tous les ans.
Est-ce qu'on savait combien de temps ça devait durer à l'origine?
Ça, c'est une affaire un peu compliquée. On savait très bien qu'il faudrait probablement aider l'Europe un peu plus longtemps, mais on a estimé qu'on ne pouvait pas le dire trop directement au Congrès, et donc on a préféré annoncer 4 ans.
Monsieur, vous êtes dans une chemiserie et vous parlez du plan Marshall. En quoi ce plan vous intéresse-t-il spécialement?
Eh bien, voyez-vous, je m'appelle John Doe. Je suis épicier en Minnesota. Et nous payons beaucoup de taxes dans notre pays. Alors, j'ai voulu me rendre compte moi-même ce que mon gouvernement faisait avec mon argent. Et je suis venu passer mes vacances en France pour voir ce que les Français pensaient de l'aide américaine. Je suis enchanté de faire votre connaissance, monsieur.
Bonjour, monsieur. Je voudrais avoir un costume de bain.
En laine ou en toile, désirez-vous, monsieur?
Oh, en toile.
En toile.
Un genre slip.
Genre slip. Bien, monsieur. Nous aurions un modèle dans ce genre-ci. En coton?
Oui, donnez-moi un coton.
En coton?
D'où vient ce coton?
Ce coton vient d'Amérique.
Alors, ça fait partie du plan Marshall?
Ben oui, monsieur, ça fait partie du plan Marshall.
Vous vous apercevez dans votre commerce des effets du plan Marshall?
Énormément, monsieur, oui. Nous avons beaucoup plus de coton que nous avions jusqu'à maintenant. Ceci vaut 300 francs.
Et combien est-ce qu'il coûtait l'année passée?
350 environ.
Au revoir, monsieur. Merci beaucoup.
La deuxième contrainte qui a été mise, ça a été l'obligation pour les pays européens assistés de signer une convention collective par laquelle ils s'engageaient à coopérer dans une organisation européenne de coopération économique. Et là, on touche à un point essentiel. Les Américains, à cette époque, étaient plus européens, si je puis dire, entre guillemets, que les Européens eux-mêmes. Et de ce point de vue, le plan Marshall n'a pas été sans influence sur la construction européenne. Enfin, les pays signataires devaient s'engager, et certains un peu grincer des dents en voyant ce qu'ils devaient signer, à signer un accord bilatéral qui les obligeait à faire bon usage des fonds qui leur seraient alloués, à stabiliser leur monnaie, etc., etc.
Les Américains en Amérique. Les oripeaux de Père Noël dont on avait affublé le plan Marshall sont tombés un à un. Le plan est donc apparu sous son véritable visage, armé, casqué, botté. Ce ne sont pas des boîtes de conserve qui arrivent d'Amérique, mais des tanks, des canons et une armée d'occupation. Personne ne peut plus nier aujourd'hui que l'application du plan Marshall a amené une brusque chute du niveau de vie de la population française. Telle est la vérité impossible à cacher. L'armée américaine d'occupation a certes la sympathie des flics, des banquiers et des milliardaires, au service de qui elle est. Par contre, elle est entourée de l'hostilité nationale qui ne fera que grandir. À bas l'occupation de notre pays, les Américains chez eux, en Amérique. Auguste Lecoeur, L'Humanité, 10 avril 1951.
Ce qu'il faut voir, c'est plutôt effectivement le rôle du plan Marshall indirect dans la cassure de l'Europe en deux. On est passé du plan Marshall au pacte atlantique, qui a été au fond signé, si je ne me trompe pas, le 4 avril 1949, c'est-à-dire presque jour pour jour, un an après la signature du plan Marshall. Maintenant, la vraie question, effectivement, et c'est celle qu'il faut poser comme historien, c'est est-ce que le plan Marshall est ce que Dean Acheson appelait une des plus nobles entreprises de l'histoire, ce que certains ont qualifié de « best hour » de la politique américaine, ou est-ce que c'est au fond une entreprise de, j'ose employer le terme, colonisation, évidemment douce, mais efficace, de l'Europe par les États-Unis. Je crois que ce que l'on peut dire, c'est qu'effectivement, le plan Marshall, c'est les deux. D'un côté, il est clair que sans le plan Marshall, la reconstruction de l'Europe aurait été très difficile. Peut-être économiquement était-elle possible, mais les sacrifices qu'elle eût exigés des populations risquaient fort de déboucher sur des crises sociales aux répercussions politiques incalculables. En revanche, il faut bien voir quand même que si les Américains ont agi avec générosité, ils ont aussi agi parce que c'était leur intérêt. Il s'agit de convertir en quelque sorte l'Europe aux méthodes américaines de marketing, de gestion, de transformer l'Europe un petit peu sur le modèle américain. Avec le recul de l'histoire, on peut dire que ça a assez bien fonctionné pendant deux décennies avant que la globalisation, évidemment, ne remette un petit peu en cause ce modèle qui était à la base de l'American Way of Life.
Tuvo fa l'americano, americano, americano, sienta me chi do fa fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky and soda, poi ti senti disturbato. Tu abballo rock and roll, gioca a baseball, dei sorti peccamella, chi te li dà la borsetta di mamma tua fa l'americano, americano, americano, ma si nati in Italia, siente a me non c'è sta niente fa, ok napolitan, tuo fa l'americano, tuo fa l'americano.
Vous écoutez France Culture, La Fabrique de l'Histoire, Emmanuel Laurentin.
Voilà donc pour ce documentaire que vous avez préparé, Victor Massé de l'Épinay, bonjour. Vous l'avez réalisé avec Séverine Cassard autour du plan Marshall et nous accueillons donc deux professeurs. Sylvie Gentot, bonjour.
Bonjour.
Et Eliane Leport, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes toutes les deux professeurs au lycée Gaston Bachelard dans le 13e arrondissement. Et la particularité de l'exercice d'aujourd'hui, c'est la particularité d'une épreuve d'histoire pour bac professionnel, bac pro, avec un thème qui ressemble aux thèmes qui sont utilisés et qui sont débattus dans les autres classes et les autres sections, mais avec des particularités, bien évidemment, puisque vous n'avez pas le même horaire que les sections générales, par exemple, Eliane.
Alors, nous, on dispose de 2 heures par semaine en histoire, et ça recoupe d'ailleurs la durée de l'épreuve, qui est organisée en 3 parties et qui ne nécessite pas, en fait, de faire une dissertation, puisque ce sont en général soit des petits paragraphes que l'on demande aux élèves sur des questions de connaissances, bon, qui pourraient porter, par exemple, sur les États-Unis et le monde, ou alors des études de documents en éducation civique et morale, et également en géographie, enfin selon que les documents tombent en histoire, voilà.
Alors, si on réfléchit à la particularité de cette épreuve aussi, Sylvie Genton, on se dit, même intitulé, mais contenu un peu différent. Les États-Unis et le monde, si on le faisait en section générale, on ne le ferait pas exactement de la même manière que ce que vous faites dans cette section pro.
Bah, en fait, on va essayer de répondre à une problématique. Et cette problématique, en fait, c'est de voir ce qui s'est passé entre 1917 et 1989 pour que les États-Unis, qui étaient une puissance importante, mais qu'elle partageait avec notamment la France et la Grande-Bretagne, se retrouvent en 1989 avec ce qu'on appelle une superpuissance.
Ou une hyperpuissance même.
Une hyperpuissance même, hein, c'est-à-dire une puissance au niveau économique, politique, diplomatique, militaire, mais aussi culturel, mais aussi humanitaire. Et en fait, on essaye de traiter cette problématique pour justement éclairer les élèves sur la construction du monde d'aujourd'hui.
Et sur une évolution, pourrait-on dire aussi, parce que c'est sur la durée qu'il faut montrer la construction d'un pays comme celui-ci, Eliane Lepan.
Et d'où l'importance d'ailleurs des deux dates dans cet intitulé, qui sont deux dates de rupture. 1917, c'est une rupture par rapport à la politique étrangère telle qu'elle était menée et aussi pensée avec la doctrine Monroe en 1823. L'entrée en guerre des États-Unis donc en 1917 constitue une rupture de ce point de vue-là. Ensuite, il y a une espèce d'aller-retour, peut-être sur lequel on reviendra justement, entre une posture d'engagement, puis à nouveau une position isolationniste, jusqu'en 41, où là, il s'engage complètement, pleinement, en fait, dans la Seconde Guerre mondiale. Et puis, 1989 est aussi, et on s'y arrête, bien entendu, avec nos élèves, est aussi une date de rupture, puisque Sylvie Genton vient de le rappeler, c'est l'effondrement du bloc communiste, et puis, effectivement, l'avènement, en fait, d'une hyperpuissance.
Sylvie Genton.
Oui, et tout ça en s'appuyant sur des documents. En s'appuyant sur des documents contradictoires pour toute la période qui va concerner la guerre froide, bien entendu, hein, où on va justement essayer de montrer aux élèves que c'est pas si simple et que écouter les discours des uns et des autres ne permet pas forcément d'avoir une vérité. Hein, on essaye de
Donc
mettre...
Donc c'est la question de la critique.
Eh oui, essayer de développer tout ce sens critique. Et puis aussi des documents avec les mots-clés, hein, je dirais les définitions. On va parler de doctrine, on va parler de paix, d'isolationnisme. On va parler aussi de liberté, en particulier pour les États-Unis, parce que dès qu'on ouvre un manuel, on trouve dans tous les discours de tous les présidents américains la liberté, la défense de la liberté. Alors parfois c'est la liberté individuelle, parfois c'est la liberté
des peuples
à disposer d'eux-mêmes, etc.
Victor Massel-Lépinay.
Oui, ce qui est intéressant, c'est que c'est un chapitre qui n'est pas un chapitre d'histoire américaine. On n'apprend pas tout ce qui se passe aux États-Unis pendant ce temps-là. C'est les rapports avec le monde. Et donc, en gros, la puissance dont vous avez parlé, qui est un thème central, et ces valeurs que vous évoquiez à l'instant, Sylvie Genton, comment les États-Unis diffusent leurs valeurs dans le monde, en gros, pendant un siècle.
Oui. Eliane Lepore. Et ce que vous précisez est important. Bien sûr, c'est pas une histoire des États-Unis. C'est vraiment les États-Unis dans leur rapport entre le monde, dans leur rapport avec le monde entre ces deux dates, ce qui nécessite aussi de s'arrêter avec les élèves sur la notion de puissance et puis aussi de ce que c'est que de construire sa puissance. Parce qu'après tout, la puissance états-unienne, ça paraît être une évidence. Et nous, en fait, il faut au contraire qu'on montre les étapes. En 1917, c'est peut-être une puissance industrielle, c'est aussi une puissance économique. Mais par exemple, c'est pas une puissance diplomatique et c'est une puissance qui se cherche au niveau de sa diplomatie. Donc ça, c'est important de le montrer. Et qui dit puissance dit aussi rapport de force, et notamment, bien sûr, au moment de la guerre froide, on est complètement dans le rapport de force avec une autre puissance. Donc ça, c'est aussi des notions sur lesquelles il est important de s'arrêter avec les élèves concernant cette question.
Victor Massel-Lépinay.
Et on a évoqué l'alternance entre isolationnisme, interventionnisme. Vous avez mentionné la doctrine Monroe avant 17. Ça, par exemple, c'est quelque chose qui est important, que les élèves doivent connaître. La doctrine Monroe, qu'est-ce que c'est et quand est-ce que ça...
Alors, qu'est-ce que nous, on leur signale, quand on travaille cette question d'année, en début d'année, je ne sais pas si les élèves s'en souviennent, on a un petit peu revu ces temps-ci, mais c'est vrai qu'on leur donne cette date, 1823, qui est loin de 1917, mais pour leur dire, en gros, c'est une doctrine qui dit, en gros, les États-Unis ne vont pas s'occuper des affaires de l'Europe si l'Europe accepte de ne pas s'occuper des affaires des États-Unis sur le continent américain. Et c'est une doctrine qui véritablement va structurer en fait la diplomatie américaine, et par rapport à laquelle aussi Wilson, en 1917, se positionne. Et ensuite, il va y avoir effectivement cette espèce d'aller-retour permanent dans la recherche de la construction de sa puissance diplomatique.
Sylvie Gentaud, ce n'est pas si évident que de dire qu'une puissance se construit. Il faut, on part souvent de l'idée qu'il y a une puissance, elle est là et qu'on n'en discute pas. Ce qui est important dans ce programme, tel que vous le concevez avec Éliane Lepore, c'est justement d'imaginer que patiemment, on peut devenir de puissance économique une puissance diplomatique, de puissance diplomatique une puissance militaire, etc., etc.
Et qu'il peut y avoir des allers-retours. Et
bien sûr.
Oui. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que on va passer d'une politique isolationniste, la doctrine Monroe, à une intervention, alors on explique aux élèves qu'elle est pour des raisons tout à fait intérieures aux États-Unis, c'est qu'ils ont été attaqués au niveau de leur flotte commerciale, donc ils interviennent en 1917, à la fin du premier conflit mondial, et là, ils ont même,
avec Wilson,
voilà, ils ont même donc voulu régler les problèmes de paix. Donc après, on parle aussi du fait que les 14 points de Wilson vont pas vraiment être acceptés. Il va y avoir le traité de Versailles qui ne va pas être ratifié par les États-Unis. Les États-Unis ne vont pas rentrer dans la SDN. Donc là, de nouveau, on va se replier, etc. Tout en
comme une sorte de respiration, d'une certaine façon. On fait un pas vers l'extérieur et puis on peut parfois refaire un pas vers l'intérieur et repartir ensuite un peu plus vers les autres pays du monde un peu plus tard.
Oui, tout en devenant les banquiers du monde quand même.
Non, mais bien sûr, il faut. Éliane Lepore.
Sur cette question-là, de toute façon, ce qui a quand même est un peu taraudé, les Américains, et quand je parle des Américains, il y a l'importance aussi de l'opinion publique, parce que l'opinion publique, à certains moments, y compris d'ailleurs sur le plan Marshall, on l'entend dans le documentaire, ne suit pas forcément le président ou les secrétaires d'État, et donc c'est une vraie pression en tant que telle. Et après, la question qui va être posée pour les États-Unis, c'est est-ce qu'il est possible d'exporter leur modèle économique, culturel, leur modèle commercial, en se protégeant du monde. Et ça, c'est une vraie question. Et finalement, ils vont avoir à résoudre cette question. Et à partir de 45, la réponse est non. Jusqu'en 45, en fait, ils peuvent penser que oui, qu'il est possible de profiter pleinement des marchés mondiaux en se protégeant eux-mêmes. Après 45, la montée en puissance de l'URSS prouve que ce n'est pas possible. Et sur ça, ce qu'on signale aux élèves et qui est très important, parce que nous, on rentre dans le programme avec le discours très intéressant de Wilson qu'il prononce au moment de l'entrée en guerre des États-Unis. Et on fait une recherche sur le lexique et les élèves repèrent immédiatement qu'il n'est question que de paix et de liberté. Et ils me disent, mais ça va pas, parce qu'il fait rentrer son pays en guerre, il est en train de nous parler de la paix et de la liberté. Alors on retourne dans le texte et là on voit que le premier mot, presque, c'est le mot commerce. Et à ce moment-là, nous, ça nous permet de dire aussi, parce que ça c'est une représentation, nous on s'adosse aux représentations des élèves, parce que ce sont aussi parfois les nôtres, mais en même temps on est prof d'histoire, et donc à ce moment-là, c'est important qu'on fasse des décalages et qu'on leur dise par exemple que ça, ce sera toujours contenu dans les discours des présidents américains, cette espèce de posture double entre un modèle qui se veut exemplaire et qu'ils vivent aussi comme un modèle exemplaire, un modèle économique, un modèle commercial, un modèle de réussite, de droit, de liberté, justement j'enlève l'économie et le commercial, et puis par contre, comment est-ce qu'on peut défendre nos intérêts matériels et nationaux concrets. Et il y aura toujours, on sera toujours aux prises avec ces deux
Une véritable dialectique, en l'occurrence. Sylvie
Exactement,
Gentot.
Une véritable dialectique. Et en plus, on va s'appuyer sur des documents. Alors, les documents, ça peut être des discours, on a beaucoup parlé de ça tout à l'heure, mais aussi beaucoup d'affiches. Hein, parce que la politique des États-Unis, que ça soit entre les deux guerres ou que ce soit pendant la Deuxième Guerre mondiale ou bien entendu avec la guerre froide, c'est encore plus vrai. On va avoir dans nos manuels plein de documents qui sont des documents propagandistes et qu'on va interroger. Mmh. On va mettre en miroir un document sur, par exemple, on va prendre le plan Marshall, un document pro-américain, et puis par contre, un document pro-soviétique où on voit le refus du plan Marshall comme étant, bon, comme étant évidemment un diktat, enfin, si on peut le dire, pour l'Union soviétique qui va le refuser.
Victor Massé-Lépiné.
Oui, en fait, la question dont les États-Unis sont perçus par le monde est aussi au cœur de ce chapitre. C'est-à-dire, évidemment, l'URSS qui fait une contre-propagande constante pendant des années, mais en France, en Angleterre, en Allemagne, comment le plan Marshall ou les 14 points de Wilson sont accueillis, perçus, avec en particulier cette suspicion perpétuelle qu'en fait les valeurs ne sont là que pour enrober des processus économiques.
Oui, oui, oui.
Il y a le port.
On l'entend très bien d'ailleurs dans le documentaire où Pierre Mélandry expose très explicitement, enfin, d'abord comment s'organise ce plan Marshall à l'échelle des États-Unis, avec aussi une réticence, c'est ça qui est intéressant, enfin, de la population américaine elle-même. Et il va falloir en fait le coup de Prague en 48 pour que finalement ils se disent, soit on accepte effectivement ce plan de reconstruction à l'égard de l'Europe, parce que c'est aussi ça, c'est-à-dire accepter en fait de participer à la reconstruction de l'Europe et donc de faire ce qu'il ne voulait pas faire jusqu'alors. Et dans le documentaire de Mélandry, il me semble que c'est Auguste Lecoeur, enfin qui était un leader du PC à l'époque et qui énonce toutes les raisons absolument fallacieuses et de manipulation. Alors il parle bien sûr du point de vue du Parti communiste.
Dans l'humanité.
Mais qui montre quand même que c'était un point de vue très important à l'époque, puisque le Parti communiste était loin d'être un parti minoritaire, enfin, pour ne prendre que l'exemple du Parti communiste en France.
On a parlé, Sylvie Gentot, de puissance, de pouvoir, etc. Est-ce qu'on peut parler aussi dans ces questions du rapport des États-Unis au monde, pas simplement de la puissance militaire, mais aussi de la puissance culturelle, de la façon dont elle exporte, les États-Unis exportent leur culture, le rock'n'roll, le gin, tout un tas de pratiques culturelles qui vont envahir le monde d'une certaine façon, avec être accueillis avec beaucoup de bienveillance par beaucoup de populations du monde entier, les séries télévisées, les films, etc., Hollywood, tout cela.
Bien sûr, et c'est justement pour montrer aussi, parce que on essaye toujours de faire un parallèle entre l'histoire et le monde d'aujourd'hui, parce que l'histoire comme étant la façon de se construire et donc un peu aussi expliquer des choses que l'on voit aujourd'hui. Effectivement, on verra tout à l'heure avec les super-héros américains, mais quand on voit Star Wars, des films américains et l'empreinte du cinéma américain aujourd'hui en 2016, eh bien, on explique aussi aux élèves que tout ça, ça a des origines, ça a des racines.
Victor Massé-Lépiné.
Oui, vous avez évoqué tout à l'heure le refus des États-Unis d'entrer dans la Société des Nations. Est-ce qu'il faut évoquer les autres constructions, les grandes organisations internationales dans lesquelles, par la suite, les États-Unis ont pris une place très importante? Évidemment, l'ONU, le FMI. Et parler des accords de Bretton Woods, tout ça, c'est des choses aussi importantes dans le programme.
Oui, bien sûr. Surtout que, alors, dans ce programme-là, enfin, on est quand même sur une chronologie très longue, avec énormément d'événements.
1917-1989.
Voilà, avec beaucoup d'événements, des événements qui sont eux-mêmes, très chargés, effectivement et symboliquement. Et donc, nous, il faut qu'on fasse des choix aussi par rapport à ça. Et puis, il faut aussi qu'on établisse vraiment, de la continuité. Et c'est vrai que quand on parle par exemple de la SDN, de l'échec de la SDN du point de vue des États-Unis, en tout cas en 1919, et puis ensuite de la réussite de l'ONU en 1945, ça oppose les deux, ou en tout cas il n'y aurait pas de continuité. Alors que si, l'ONU est une reprise d'une certaine façon qui ne va pas du tout se faire selon les mêmes modalités, puisque ce sont les trois grands qui prennent en charge l'organisation de l'ONU en 1945, alors que la SDN était un projet plus internationaliste, même si c'était porté par Wilson. Mais bien sûr, enfin, il est question de leur rôle, enfin, dans l'ONU, à l'OMC, au FMI. Oui, bien sûr.
Sylvie Gentot. Pour continuer sur ces questions qui sont indispensables sur ces questions-là, on a évoqué les questions militaires, on a évoqué les questions commerciales, les questions de politique internationale, les États-Unis et le monde, c'est tout ça à la fois.
Oui, c'est tout ça à la fois. Et on va aussi, aborder avec quand même la phase de la guerre froide et puis ensuite la disparition du bloc soviétique, aussi un monde que les élèves ne connaissent pas du tout, hein, que les générations d'avant, moi en particulier, j'ai connu un petit peu
moi j'ai connu
voilà,
aussi.
quand j'étais lycéenne, étudiante, on parlait pas encore de la chute du mur. Hein, donc là, il faut leur montrer que c'est quand même tout proche de nous. C'est de l'histoire, bien entendu, mais c'est tout proche de nous.
Alors, vous ne vouliez pas intervenir toutes seules, toutes les deux, Eliane Leport et Sylvie Gentot, et vous avez dit, tiens, c'est l'occasion, à la Fabrique de l'Histoire, on vient dans les studios de Radio France, de demander à nos élèves de plancher sur un petit exposé. C'est quoi le thème de cet exposé, Eliane Leport ?
Alors, le thème, ça porte en fait sur les super-héros, c'est-à-dire l'origine des super-héros, et puis en quoi ils représentent la puissance états-unienne, et au-delà de la puissance, les valeurs surtout qu'il porte, et en gros, comment ça s'est développé par différents médias tout au long du XXe siècle.
Qui sont les quatre élèves qui vont s'y coller ?
Alors, quatre élèves, donc ils ont vraiment travaillé en autonomie, parce que moi, je ne suis pas du tout spécialiste des super-héros, et on a choisi aussi ce sujet-là, parce qu'ils connaissent la question beaucoup mieux que nous. Et donc, il y a Moussa, je crois que c'est par ordre de passage, il me semble que c'est Moussa, Axel, Mouktar et Melvin, qui prennent en charge chacun une petite question.
Allez-y, commencez donc. Allez-y, Moussa.
Bonjour, je m'appelle Moussa. Je viens d'ici, Gaston Bachelard.
On vous écoute.
Les super-héros américains sont des justiciers qui ont été créés dans les années 30 à 40. Ils incarnent la justice et ils combattent les ennemis de l'Amérique, qui sont les nazis puis les soviétiques. Les super-héros représentent l'image de l'Amérique dans les années 1789 à 80.
Oui, Axel.
Bonjour, je m'appelle Axel et je vais vous présenter les caractéristiques physiques et vestimentaires de ces super-héros. La plupart du temps représentés en étant des hommes beaux, musclés, en ayant une musculature très imposante et pour la plupart, ils sont dotés de pouvoirs très surnaturels. Ces justiciers ont des tenues vestimentaires aux couleurs de leur pays.
C'est-à-dire les couleurs de l'Amérique, c'est ce que vous voulez.
Oui, par exemple, Captain America, la lettre A qui se trouve sur son casque représente le A de l'Amérique et par son costume qui représente la couleur des États-Unis, du drapeau.
Oui, continuez.
Bonjour, je m'appelle Mouktar. Alors leurs valeurs et leurs principes sont ceux de la démocratie américaine, la liberté, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, la justice et la paix. Au moment de la guerre froide, les super-héros représentent le bien, c'est-à-dire les États-Unis, et combattent le mal, c'est-à-dire l'Union soviétique. Voilà.
Et pour le dernier de vos camarades, allez-y.
Bonjour, je m'appelle Melvin. Les super-héros sont créés tout d'abord pour les bandes dessinées des Amériques. Et puis, ils sont passés à la télé. Et nous les voyons très souvent au cinéma. Par exemple, le film Capitaine America qui est sorti très récemment au cinéma. Et au moment où Capitaine America a été créé en 1940, il y a eu la Seconde Guerre, les Américains qui veulent combattre les nazis.
Merci à tous les quatre donc d'avoir présenté cette question du super-héros. Ça fait partie des possibilités que l'on peut avoir de Sylvie Gento de présenter, donc à l'écrit en l'occurrence, parce que là ça a été fait à l'oral, mais de présenter à l'écrit une telle question, de développer quelques questions, quelques réponses sur ces questions des super-héros dans ce chapitre sur les États-Unis et le monde.
Oui, ça peut arriver. Peut-être pas comme document unique au niveau du bac, mais...
Ça veut dire qu'on a fait entrer la question de l'histoire culturelle, parce que c'est de l'histoire culturelle, dans une histoire qui peut-être était moins axée sur l'histoire culturelle il y a une dizaine ou une quinzaine d'années. C'est-à-dire qu'on avait plutôt tendance, quand on aurait eu un sujet sur... si on avait un sujet sur les États-Unis et le monde à traiter de façon diplomatique, économique, politique... Là, on a fait entrer aussi toute cette dimension culturelle dans ce type de programme aujourd'hui.
Oui, on peut par exemple avoir une question sur le hard power et le soft power. On l'a déjà un petit peu vu en première, avec justement la mondialisation culturelle. Alors bon, je ne vais pas revenir dans le détail sur le programme de première, mais les élèves, à la fin de la première, passent le BEP. Et donc, ça, avec la mondialisation économique, la mondialisation culturelle aussi, et ça permet quand même de revenir sur ces notions-là qui sont quand même très importantes aujourd'hui.
Éliane Leport.
Oui, enfin, c'est en tout cas, alors c'est pas certain que ça fasse l'objet d'un document au bac, mais par contre, ça peut tout à fait faire partie de leurs réponses. Mais après, si on regarde les questions qui porte sur la question au baccalauréat, ça reste des questions très classiques. Voilà, choisir une crise de la guerre froide, citer un personnage et expliquer quel rôle il a eu par rapport aux États-Unis, c'est quand même... voilà, ça reste des questions...
Ça vous apparaît comme une question ou comme un sujet important et difficile pour les élèves de bac pro, ou est-ce que c'est un sujet qui est relativement simple justement que de traiter cette question des États-Unis et du monde, parce que peut-être aussi le bain culturel dans lequel ils baignent, c'est une question qui, ce sont des questions qui se posent ou pas du tout?
Alors, elle n'est pas forcément facile, parce que je le disais tout à l'heure, enfin, elle est vraiment très dense, il y a énormément de choses. Après, moi, je suis toujours très surprise par l'écoute de nos élèves, notamment sur la guerre froide, parce qu'on n'est plus du tout dans le même contexte. Alors, eux, ils sont complètement dans la construction européenne, même si elle est balbutiante, mais n'empêche que c'est ça, l'Europe aujourd'hui. Et la guerre froide, c'est vrai qu'il me semble qu'ils sont assez captés. Enfin, nous, on utilise beaucoup les cartes, justement. Et c'est quand même une Europe divisée en deux. À l'intérieur de l'Europe, un pays divisé en deux, puis une ville divisée en deux. C'est quelque chose de... Enfin, quand même, il faut se le représenter. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui les intéresse, même si ça peut paraître lointain aujourd'hui.
Sylvie Gento.
En même temps lointain et en même temps, ce sont des notions. Dans les informations, par exemple, on peut revenir sur une réactivation de la guerre froide, ou on peut utiliser
ou la notion de superpuissance.
Et voilà, on peut revenir sur ou une puissance contestée, etc. On peut revenir sur des notions qui justement parlent encore complètement aujourd'hui. Et justement, l'idée quand même. Hein, du baccalauréat professionnel, comme tout baccalauréat, évidemment, c'est de construire aussi des citoyens, des personnes qui vont comprendre le monde dans lequel on vit et qui vont participer à sa construction.
Victor Massé de l'Épinay.
Oui, justement, le dernier chapitre du programme d'histoire de Bac Pro, c'est le monde depuis 1990. En gros, on prend la suite du chapitre, mais de façon plus globale, un monde éclaté. Oui. Et là, on est vraiment presque dans l'actualité pour les élèves.
Oui, c'est vraiment l'histoire du temps très présent, ce qui n'est pas toujours facile d'ailleurs pour nous, cette dernière question. Mais de fait, elle est liée à la première, puisque enfin, on enfin voilà, au moment où on s'arrête en 89 avec cette notion ou cette appellation d'hyperpuissance, il se trouve qu'on la retrouve, enfin dès le début des années 90, avec notamment, enfin l'hyperpuissance et ce que ça signifie, l'unilatéralisme pardon au plan diplomatique, les guerres en Irak, donc oui c'est très lié.
Sylvie Gentot.
Oui, et on fait un pont entre l'histoire et la géographie.
Et oui, parce que ce qu'on a oublié de dire, c'est effectivement que la particularité française, nous le savons puisque nous sommes français, mais peut-être d'autres le savent pas forcément, c'est justement cette alliance depuis longtemps des programmes d'histoire et de géographie, et que en particulier dans le bac pro, ces deux notions, ces deux disciplines sont très liées, Sylvie Gentot.
Tout à fait, et je dois rajouter l'EMC, c'est-à-dire maintenant l'enseignement moral et civique qui a complètement changé et qui s'est complètement actualisé.
Merci à toutes les deux. Donc, merci à vous, Sylvie Gentot, d'être revenue. Vous étiez déjà venue l'année dernière et Yann Leport également avec vos élèves du lycée Gaston Bachelard. Et remercions les quatre élèves qui ont accepté. Ça n'est pas facile de plancher pour cette journée d'aujourd'hui. Donc, et cette émission de ce matin autour de cette question des super-héros dans le cadre de les États-Unis et le monde. C'était la leçon d'aujourd'hui. C'était le chapitre d'aujourd'hui que nous traitions avec Victor Massé de l'Épinay. Rappelons que vous avez réalisé donc en première partie de cette émission, ce travail avec l'historien Pierre Mélandry et en réalisation Séverine Cassard. Merci à toutes et merci à tous. Cette émission a été préparée comme toute cette semaine par Aurélie Marcet de l'équipe de la Fabrique de l'Histoire, à la technique aujourd'hui Stéphane Desmonts, Julien Calvas, Stéphane Touvenin, Stéphane Charbonnet et Sophie Pierre, à la réalisation Françoise Camard. On se retrouve demain pour continuer notre série consacrée au bac avec vous, Thomas et Lévié. Demain, on traitera de la question de la Chine et du monde. Mais en attendant, tous ceux qui n'ont pas pu écouter l'ensemble de cette émission ou qui veulent réécouter l'ensemble des émissions consacrées au bac, qu'ils aillent sur le site de France Culture. Il y a aussi les chemins de la connaissance, il y a aussi les émissions de littérature avec la compagnie des auteurs ou encore les émissions de sciences de 16h qui planchent sur le bac cette semaine. Et également, toutes les émissions anciennes sont remises en avant sur le site de franceculture.fr.